Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais aborder un sujet plus architectural que ce qui a été les sujets, on peut dire, des émissions précédentes. Et je vais commencer par une actualité architecturale qui est la sortie d'un livre qui est un dialogue entre deux architectes, Paul Chemetoff, qui est une figure tutélaire de l'architecture française, et un architecte plus jeune, mais enfin qui a la soixantaine, c'est toujours relatif, la jeunesse, et qui s'appelle Rudy Ricciotti. Bon, vous avez probablement entendu parler de ces deux architectes. Et le dernier, Rudy Ricciotti, est assez connu pour ses interventions assez, on peut dire, assez remarquables par des excès de langage qui en font un bon client, entre guillemets, des télévisions et des radios. Donc, ce qui n'est pas le cas de Paul Chemetoff, qui est au contraire un sphinx sage et tout à fait en retenue et en maîtrise du vocabulaire. Mais enfin, bon, c'est assez amusant d'écouter les deux dialogues, surtout c'est le monologue qui est une sorte de logorée verbale de Ricciotti. Qui passe d'un sujet à un autre avec une faconde provençale et l'accent qui va avec. Bon, c'est à la fois c'est le César de Pagnol, mais aussi avec une vulgarité bien calibrée et des provocations qui apparemment enchantent les radios et les télévisions. Bon, c'est plus près de Bigard que de Pagnol. Bon, ceci étant, je ne veux pas être trop mauvaise langue, je vais aller sur le sujet qui nous occupe. Donc, en fait, dans la dernière on peut dire interview qui a été faite sur France Inter, il y a eu aussi un passage sur France Culture, mais c'est sur France Inter, où Ricciotti fait une critique virulente de la construction en bois, et il est fait un opposé, une sorte de panégyrique totalement enflammée pour le béton. Alors vous savez que c'est un sujet que j'ai déjà abordé, le problème qui est lié au mode de construction et aux sociétés, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors il est évident que pour Ricciotti, il sait le bien et le mal. Simplement, ce qu'il dit n'est pas dénué de bon sens. Par exemple, quand il dit que le bois est obligé de voyager beaucoup et qu'on ne tient pas compte des transformations et aussi de la déforestation et que on a mis pour une fois définitivement le label écologique et en fin de compte c'est une industrie qui n'est pas du tout. Et il oppose le béton qui est lui chargé de tous les maux et en précisant qu'il utilise des matériaux comme le sable, le gravier, et il cite aussi d'autres aujourd'hui possibilités de déchets, de réutilisation, ce qui est assez vrai. Et il dit aussi qu'il s'agit d'économies locales et pas des économies d'importation, puisque ça reste sur une géographie locale. Donc tout ça est de très bon sens. Et il est bon qu'on le rappelle, même si les termes qu'il emploie, le béton est érotique, tout ça est un peu à côté de la plaque, à mon sens. On n'a pas besoin de rentrer dans cette espèce d'excès de sentimentalisme et qui me paraît inutile pour un propos qui peut être beaucoup plus rationnel et persuasif. Donc, ceci est assez positif et donne une approche que l'on pourrait trouver un peu plus, on peut dire, équilibré. C'est le mot que l'on pourrait dire par rapport à la situation actuelle, où effectivement on a les matériaux biosourcés, où on a une espèce d'emballement écologique qui n'est basé la plupart du temps sur aucune réalité, en tout cas qui peut véhiculer des notions qui sont totalement fausses. Alors, essayons de voir le problème d'un peu plus large et cette opposition entre le béton et, encore une fois, que Ricciotti, il emploie aussi les mots d'ouvrier, etc. Bon, dans tous les cas, que ce soit en bois ou en béton, on a des processus de construction qui sont élaborés, mais il faut aller un peu plus loin que cette opposition du bien et du mal et aller sur la nature des choses. Donc, le béton et le bois sont ces deux oppositions, on peut dire, fondamentale et je dirais universelle et historique. Alors, peut-être pas dans les matériaux forcément tels que le béton et le bois, mais on peut dire par ce qui va être le lourd et ce qui va être le léger. Donc, on a, et on revient sur, vous allez dire, mes obsessions peut-être, mais c'est l'opposition qui est entre la société qui modifie le territoire et de ce fait inscrit dans le territoire des murs et qui va prélever et les pierres, qui va prélever le sable et les graviers, que ce soit pour monter des murs en pierre ou pour monter des murs en terre ou des murs en béton. Comme vous le savez, le béton, c'est un assemblage d'agrégats, mais ça revient au même. On a utilisé le sol et on est dans une transformation et une transformation du territoire. Donc, à l'opposé, il y a le bois qui est, lui, dans une sorte de, on peut dire, plus aérien, qui vient des arbres, qui vient donc à la fois de la gestion des forêts, qui demande, mais qui, en soi, ne modifie pas le territoire. Donc, la transformation des arbres pour du bois de construction n'est pas du tout la même transformation que l'on a avec les matériaux lourds. Et de ce fait, on a aussi des transformations de paysages qui sont totalement différentes. On peut dire même qu'il y en a très peu. Voilà. Donc, alors sans parler uniquement de cabanes, mais aujourd'hui, c'est ce qui plaît à la société d'aujourd'hui parce que nous sommes passés d'un type de société qui était celle de la transformation des paysages, qui a vu nos villes, nos villages, les temples, les églises, les cathédrales, tous les bâtiments publics, tous nos villages, nos bastides, qui sont dessinés avec des damiers d'une manière orthogonale. Et je vous avais expliqué la différence qu'il y a entre justement le carré, le rectangle et les formes rondes qui peuvent suivre les courbes. Donc on est dans des oppositions radicales. Alors, pour dire le rapport qui est aux sociétés, comme je vous disais, ce sont deux formes de société. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique différente, d'une société qui n'est pas inscrite sur le territoire, donc de ce fait qu'il y a une mobilité à la fois des matières, puisque le bois n'est pas pris dans le sol, mais doit voyager, ce qui est accepté d'ailleurs, on peut dire, par les écologistes qui ne croient que il suffit de ramasser le bois à côté de chez soi. Alors, les choses sont un peu plus compliquées. Mais enfin, ce n'est pas le sujet de la chronique d'aujourd'hui. de faire une attaque de l'écologie, mais plutôt de dire qu'il s'agit d'un mouvement dans lequel nous sommes et que l'on peut dire, si ce n'est accepter, en tout cas l'accepter dans la mesure où on ne dérive pas sur des excès. Et c'est le danger effectivement des positions quand elles deviennent trop idéologiques, c'est qu'on arrive à des absurdités. Donc il faut rester dans un équilibre, mais on peut aussi accepter que les constructions soient plus légères. Alors, ce n'est pas une opposition avec le bois, parce qu'il y a aussi l'écologie qui est dans une sorte de mythe de la nature. Donc on vous dit que le bois, il est vivant, ouais, il est vivant, il est plus vivant, le bois, une fois qu'il est, il est un matériau. Et donc, on ne va pas tomber dans cette espèce de paganisme de l'esprit du bois et de l'esprit de l'arbre qui est dans la construction. Tout ça est absurde, n'a aucun fondement réel et on traite des sujets qui sont bien plus sérieux et on n'est pas dans ces espèces de mythes et de fantasmes anciens, bien que ce soit un mouvement qui traverse l'écologie, même, on peut dire, le vent, le soleil, le solaire et sont donnés comme des ressources, non pas sur un plan rationnel uniquement, mais aussi sur un plan du mythe, c'est le soleil et le vent. Et par exemple, quand on parle de géothermie, qui est d'utiliser la température du sol, qui est plus chaude, plus on s'enfonce, et donc on est sur des nappes phréatiques qui peuvent être des sources chaudes, et donc des économies, enfin des énergies facilement accessibles, relativement accessibles en tout cas, et là aussi renouvelables et non dispensatrices de CO2 ou de pollution, que sais-je donc. Mais là, il s'agit de rentrer dans le sol. Et on est dans un autre mythe, et ça ne plaît pas beaucoup aux écologistes, non pas sur un plan de la réalité factuelle, mais uniquement sur un plan du symbolique et du mythe. Bon, j'ai fait une digression par rapport à cela, mais on va revenir à notre histoire de matériaux. Alors, l'histoire de matériaux, c'est le bois, mais le bois, c'est aussi la transformation des arbres, mais on a un type de construction qui est différent du lourd, et c'est surtout ça qui est important, et l'utilisation du métal, de la construction métallique, fait partie de la même logique que de la construction du bois. Alors même s'il n'y a pas le côté aussi, on peut dire, immédiat, naturel de l'arbre, mais il s'agit d'une transformation du minerai, mais le principe de construction est assez semblable. En fait, on est sur les fondements entre le lourd d'un côté et la transformation du territoire, et le léger qui sera ou des structures métalliques ou des structures de bois. Alors, je vais développer ça après la pause musicale, mais on verra comment ce passage se fait sur un plan historique. Mais effectivement, c'est dû à des progrès de la technique, les fonderies, l'acier, etc., et la baisse des coûts, mais il s'agit des mêmes principes constructifs. Bien, alors, laissons la pause musicale.
Thank you.
Oui, la semaine dernière, je vous avais dit que nous allons parler du roman et du gothique. Eh bien, voilà, c'est le moment de faire le lien historique et on peut dire aussi assez proche de nous. Alors, on peut dire que sur un plan géographique, on a les constructions on peut dire du bassin méditerranéen. La Mésopotamie même, enfin, autour de notre aux origines de notre civilisation, de l'Égypte, on a l'Empire romain, on a la Grèce avant qui est dans cette inscription du territoire et la transformation du territoire. Mais nous ne sommes pas uniquement sur ce bassin méditerranéen et les civilisations qui sont autour, mais il y a aussi d'autres contrées, et notamment cette dualité qui va exister avec les pays du Nord, où on a, en opposition à ces peuples de transformation du territoire qui sont des agriculteurs, on va avoir des peuples de la forêt. Et des peuples de navigateurs. Non pas que les Grecs et les Romains n'étaient pas des navigateurs, mais l'essence même est totalement différente de ce que va être à la fin de l'Empire romain avec les invasions qui vont venir du nord. Donc, on a les modes de construction qui vont être liés à la fois. D'un côté, on a les bateaux et un mode de construction de nervures et de panneaux et qui va être en continuité avec l'architecture de ces pays. Évidemment, on est en opposition avec la construction du mur qui est faite par des empilements. Donc, on peut dire qu'on a l'opposition de système structurel avec des remplissages. Je prends encore cette image du bateau et des constructions qui sont faites par empilement. Alors, l'architecture romane, qui, comme son nom l'indique, est en continuité de l'architecture romaine, est une architecture d'empilement avec des murs épais, des contreforts, des soubassements et des voûtes qui sont en partie qui sont surélevées et qui s'appuient sur ces contreforts et qui donnent des bâtiments relativement opaque et faiblement percé. Alors, ce n'est pas l'histoire de l'architecture, comme j'ai pu le dire, mais c'est quelque chose qui est assez évident, n'est pas une poursuite de la technique, mais une conformité avec la société à ses demandes. Donc, il ne s'agit pas, l'histoire de l'architecture, encore une fois, n'est pas uniquement un assemblage d'inventions. Donc quand on dit, par exemple, que le passage du roman au gothique, c'est une invention, bon, j'entendais Franck Ferrand, qui est au demeurant un brillant historien et un brillant conteur, dire ça récemment, et expliquant qu'il s'agissait de l'invention de l'ogival, qui était un grand progrès. Non, il ne s'agit pas d'un grand progrès, il s'agit simplement d'un mode de construction et de finalité différentes. Un, on est dans la proportion, l'équilibre et la transformation. Regardez par exemple une basilique comme Saint-Cernin, bah, c'est la croix, le corps du Christ, donc, et les proportions que l'on peut trouver sur le portail qui ne sont pas du tout une poursuite de la lumière et de la hauteur, comme on a pu le dire, bien que dans le cas présent, il s'agissait d'être le plus grand possible pour faire les dimensions d'un édifice conséquent. Dans de ce fait, on était sur les contraintes de trouver des solutions techniques, mais les solutions techniques, elles étaient contenues dans le vocabulaire de la société et de la culture et de la symbolique existante. Donc, on peut dire venu du Nord, une autre vision où on va transformer la construction de bois en pierre. Donc la cathédrale, elle n'est plus dans cette forme du corps, elle va être, on peut dire, une image de la forêt. Donc c'est d'ailleurs toutes les métaphores qui sont employées. Et on le voit d'ailleurs sur la manière dont les fûts des piliers sont décorés avec des feuilles et des pousses. Et il s'agit de monter le plus haut possible. Et c'est une course vers la hauteur. Donc on n'est plus sur des recherches d'équilibre de proportion, on est sur une recherche de la performance et de la hauteur. Et on sait qu'à un moment donné, on va atteindre des sommets comme la cathédrale de Beauvais et qu'on sait qu'on va s'arrêter parce qu'on est à la limite des possibilités du matériau pierre. Et donc, on va atteindre le sommet qui est, je crois, 48 mètres sous la voûte. Alors, on peut dire, dans cette finalité, et cette finalité, elle va atteindre son apogée et elle s'arrêtera à cette époque donc du XIIIe siècle. On passera après dans une autre époque qui sera la Renaissance et le style classique qui est totalement différent. Et cela sera repris plusieurs siècles, même une période bien conséquente, puisqu'il s'agit du XIXe siècle, où les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux que vont être les techniques de construction métallique, avec d'abord le Crystal Palace et puis les premiers gratte-ciel à New York et à Chicago, où on va avoir des constructions qui vont d'ailleurs reprendre, je ne sais, un hommage au style gothique, qui vont être néo-gothiques et qui vont franchir justement ces fameux seuils que nos cathédrales avaient atteints et vont le dépasser, tout en gardant ces formes-là. Après, les formes perdront le style historique, mais on a donc une sorte de résurgence du gothique plusieurs siècles après, avec le néo-gothique du XIXe siècle. Donc, on est là dans une autre stratégie, on est dans une autre symbolique, et on est pareil dans une course à la hauteur, et vous savez que cette course à la hauteur, d'ailleurs, n'est toujours pas arrêtée, puisqu'on est toujours à construire à Abu Dhabi ou ailleurs, ou en Chine, ou en Corée, des bâtiments les plus hauts du monde, et cette course à la hauteur qui, personnellement, me touche très très peu et que je trouve assez ridicule, mais bon, on est dans cette logique-là et on n'est plus donc une recherche de l'équilibre, de la proportion et de la fonction et du rôle. Donc, vous voyez que le rapport aux matériaux, donc c'était le bois qui devient du fer, mais qui est construit de la même manière. Et alors, lié à cela, et c'était le propos un peu caricatural de l'architecte dont je vous parlais tout à l'heure, qui était de glorifier les ouvriers du bâtiment qui construisait en béton, avec, je pense, un certain mépris pour les autres, bon, tout ça n'étant pas très justifié, mais ce que l'on peut dire, et je pense que je développerai cela ultérieurement, c'est que nous avons des organisations sociales qui sont différentes. C'est-à-dire qu'en fait, que le mode de construction de l'architecture, on pourrait résumer ainsi, c'est l'architecture qui fait les sociétés et les sociétés qui font l'architecture. C'est cette dualité. Alors on a l'exemple dont j'avais déjà parlé des Égyptiens qui construisaient des pyramides pour avoir une sorte de continuité de l'ordre existant, où la pyramide était à la fois jouait un rôle magique, symbolique de pouvoir, mais aussi avait un rôle économique très important par rapport à l'organisation sociale et a été organisée et on peut dire dessinée et conçue par rapport à l'organisation sociale de cette société. Ça correspondait pour que ce soit bénéfice pour tout le monde. Donc, ça, s'il s'agit de basculement avec les matériaux, on peut dire légers, et l'assemblage structurel à la fois du bois et à la fois du métal, qui implique des modes de construction totalement différents. Et alors, notre Ricciotti s'insurge contre ces changements sociaux. Alors, moi, je ne suis pas dans des rapports polémiques. En tout cas à ce point polémique, et je pense que l'organisation sociale, et on peut dire beaucoup plus industrialisée, va correspondre à des sociétés. Alors c'est pas un hasard si les États-Unis, par exemple, vont être les promoteurs de l'architecture métallique, parce qu'en fait ce pays est, on peut dire, à la fois à la pointe des modes de changement, je ne dirais pas de la civilisation, je dirais de ce basculement. Et on peut dire aussi que ce pays est constitué par des migrants européens des pays du Nord, où effectivement on est sur des modes de transformation et d'organisation sociale et aussi de savoir-faire de charpentier. Et de la charpente en bois à la charpente métallique, il s'agit des mêmes processus de spécialisation. On est donc dans une structure beaucoup plus industrielle, beaucoup plus de montage, totalement différente de l'empilement et de l'assemblage. Et donc, le rapport que l'on a, pour revenir à cette opposition entre romain et entre roman et gothique, est bien plus qu'un rapport de technique et de l'arc ogival qui sera un progrès. On est sur des modes de civilisation, des modes d'organisation sociale, et le chantier lui-même va être organisé d'une manière différente. Alors ça, je réserve ça pour la semaine prochaine, mais je développerai cela, mais je peux vous en dire déjà le contenu. C'est-à-dire qu'on est avec l'empilement, avec une main-d'œuvre qui peut être moins qualifiée, et on va être par contre dans le cas de la structure beaucoup plus complexe, d'une main-d'œuvre qui est interdépendante, comme par exemple s'il s'agit de bateau, et c'est plus qu'une métaphore, puisque c'était vraiment ces technologies qui étaient appliquées. Eh bien, un mauvais mouvement de gouvernail ou de voile peut faire chavirer un bateau, et ce qui est le cas de ces bâtiments d'aujourd'hui, métalliques ou en bois, où on a des organisations, on peut dire, de chantier totalement différentes. Voilà le sujet dont on parlera la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.